Les marchandes de sable, le flocon de Bertrand Santini et Laurent Gapaillard. C'est la nuit du Nouvel An et le roi donne une fête au château. Aux portes du palais se presse le cortège éblouissant des grands de ce monde. Seigneurs et gentilshommes, hommes d'église et maréchaux affluent de tout le royaume, les bras chargés de cadeaux. Chaque invité, par la valeur de son étrenne, veut attester de sa grandeur et de son importance. Les présents, offerts au roi et à la reine, rivalisent de splendeur et d'extravagance. Les tables ploient sous le poids des délices et le vin coule en abondance. Dans les parfums de chair et d'encens, la foule chante, s'enivre et danse au clair des animaux qui rôtissent. À titre de présent, l'astrologue offre au roi un instrument d'optique, fruit de son invention. Cette lunette magique et révolutionnaire permet de scruter l'univers, son ordre cosmique, les astres lointains, le noir inconnu, tel que nul œil humain ne l'a jamais vu. On pointe l'outil vers le ciel avec prudence et dévotion, de peur que Dieu ne surgisse à travers l'œilleton. Là-haut brille une comète. Depuis des mois, hommes de science et de religion s'opposent sur la nature de ce prodige, son essence et son interprétation. Ce brasier divin, foudre immobile dans le firmament, augure-t-il d'une fin ou bien d'un commencement ? Insensible à ces bavardages, le ciel tout à coup menace et frissonne. Un vent chargé de nuages répand le brouillard et la glace. Il floconne. Aussitôt, les débats prennent fin et chacun retourne à son festin. Au milieu de la nuit surgit Johann Kepler, mathématicien de la cour et protégé du roi. Le jeune homme transi et retardataire s'engouffre dans le château, blanchi par le froid. Son arrivée dans la salle des fêtes n'est guère remarquée, sinon pour des raisons perfides. Les convives, haussant la tête, ne regardent que ses mains vides. Il comparaît sans étrenne, s'offusque-t-on. Nulle offrande pour sa majesté. Quel scandale! Quel affront! Mais le roi magnanime rabroue d'un geste ses commentaires indignes. Voyons, cela n'est point important. Sois le bienvenu parmi nous, cher enfant. Sans être impressionné le moins du monde, Johann se tourne vers la foule et gronde. Vous avez tort. J'ai un cadeau pour Sa Majesté, et je puis vous assurer qu'aucun de vos trésors n'est plus rare ni plus grand que celui que je tiens dans mon gant. Vraiment, ironise un seigneur, quelle est donc cette merveille ? Devinez, s'amuse Johann, devinez ce qui est plus précieux que l'or. Rien, rugissent en cœur les invités. Plus grand que l'océan ? Rien, plus grand que le soleil ? Rien, en effet, sourit le jeune homme, rien est plus précieux que tout. Se tournant vers le roi, il dresse alors son poing. Sire, je sais combien vous appréciez la modestie, et j'affirme qu'un cadeau vous fera d'autant plus plaisir qu'il se rapprochera de rien. Pourvu qu'un présent puisse vous combler, il doit paraître à la fois modeste, éphémère, anodin, en un mot commençant, ce présent doit être presque rien. Lentement, le mathématicien déplie sa main et révèle, en guise de présent, un flocon de neige posé au creux de son gant. Un flocon, ricane un invité. Est-ce, d'après toi, un cadeau digne d'un roi ? Assurément, les flocons sont des lettres expédiées par le ciel, messagers de la pensée des étoiles. D'un geste, Johann pointe la lunette en direction du flocon, afin que le mystère se dévoile. Et maintenant, regardez, majesté. Regardez ce que ce presque rien peut nous révéler. Comme au sortir d'un rêve, le roi redresse la tête et titube. Ce vertige royal suscite aussitôt l'inquiétude. « Qu'avez-vous vu, sire ?» demande la foule. Et le roi de répondre. « J'ai vu que la terre n'est pas le centre de l'univers, pas plus que l'homme n'est au cœur de la création. J'ai vu que nous sommes l'égal des bêtes et pas même maître en notre propre maison. »« Majesté !» s'indigne un dévot en furie. « Vous risquez des peines infernales à proférer de telles hérésies. » D'un geste fatal, l'homme de foi s'empare du flocon et le hisse au bout de son doigt, comme on repousse un démon. Aussitôt, le flocon se dissout, dégouline et ruisselle à travers les sillons de l'enveloppe humaine. Après une hésitation, la foule éclate de rire devant cette absurde scène. Comment diable un flocon pourrait-il contredire la supériorité humaine ? Mais soudain, un vacarme. Les animaux rôtis, suppliciés trop lourds, s'effondrent dans l'âtre et dispersent leurs flammes alentour. Un feu cinglant dévore le monde. L'or, le bois, le tissu et la chair fusionnent et fondent en une seule et même matière. On hurle, on panique, on se rue vers les portes. En vain, la neige, déjà, a bloqué les issues. Par fortune ou bien miracle accidentel, Johan s'échappe par une issue providentielle. À travers les nuées de flocons, le jeune homme observe l'Empire disparaître dans un chaos d'argent. Seigneur impuissant, il s'interroge. Ce brasier humain, étincelle face au firmament, augure-t-il d'une fin ou bien d'un commencement ?